le club de C'est pas du vent sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, soyez les bienvenus dans le club de C'est pas du vent avec les journalistes de RFI et d'autres médias. Nous faisons le tour de l'actualité environnementale internationale en revenant sur les sujets qui nous ont marqués. Aujourd'hui, nous accueillons Conception Alvarez du média en ligne Novetic. Bonjour.
Bonjour.
Simon Rosé et Juliette Pietraszewski du service environnement climat de RFI. Bonjour à tous les
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Et Nina Carel de la rédaction russe de RFI. Nous avons même Pauline avec nous qui est en stage et qui va suivre de près cette émission. Bonjour à toutes et à tous donc. Alors en une phrase, de quoi allez-vous nous parler, Conception?
Alors moi je vais vous parler du ski ou de la fin du ski. Plutôt je vous emmène à Métabier, c'est une petite station dans le massif jurassien, la frontière suisse qui se débat avec la transition depuis 10 ans déjà et c'est toujours en cours, c'est pas fini.
Voilà un sujet très exotique pour nos auditeurs africains, mais avec de gros enjeux économiques. Simon Rosé.
Je trouvais que ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé d'exploitation minière des fonds marins.
Ah, votre petite marotte.
Sujet très important avec des avancées ou pas attendues dans les 2 semaines qui viennent à Kingston en Jamaïque où se trouve le siège de l'autorité internationale des fonds marins.
Voilà, et les débats reprennent. Juliette.
On va parler de la fast fashion, à l'heure où en France, donc, il y a eu une proposition de loi adoptée il y a 1 an à peu près par l'Assemblée nationale et qui attend maintenant de passer en séance plénière au Sénat. On va s'intéresser donc à la surproduction de vêtements et notamment à ses conséquences dans les pays du Sud.
Voilà, et là chacun dans nos têtes, on se dit, attends, comment je suis habillée aujourd'hui déjà? Avec le film hip-hop, nous irons en Équateur où comme partout dans le monde, les glaciers fondent, ce qui impacte les ressources en eau des populations. Et nous parlerons musique et écologie. Nous écouterons même Johnny Hallyday dans cette émission avec la chronique culture de Caroline Filliette. Voilà, vous avez le programme, c'est parti.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Alors vous le savez, si vous suivez le club de C'est pas du vent, nous commençons d'abord par nos étonnements, nos énervements, ou voilà, tout ce qui nous a un peu amusé ou pas dans l'actualité environnementale de ces derniers jours. Conception, vous avez une petite mise au point à nous faire, parce que la semaine dernière, c'est vrai que nous avons relayé, comme la plupart des médias, un article de la BBC largement relayé, en effet, qui expliquait qu'une autoroute à 4 voies était en train d'être construite en pleine forêt amazonienne pour la COP30, ce qui semblait choquant, mais...
Oui, alors vous avez peut-être vu les images sur les réseaux sociaux, en tout cas elles ont largement tourné. Donc une énorme autoroute 4 voies construite au milieu de la forêt amazonienne. Et donc pour cette COP 30, COP climat qui va être organisée au Brésil à la fin de l'année, eh bien en fait ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. En fait ce projet est bien réel, il est en cours, mais il était dans les cartons depuis 10 ans déjà, porté par l'État du Pará pour réduire en fait les temps de trajet et décongestionner les axes routiers dans la ville. Ce qui se passe, c'est que ce projet avait été plusieurs fois reporté justement en raison de son impact environnemental. Et tiens, tiens, coïncidence ou pas, en juin 2024, il a finalement officiellement été lancé. Donc juste après la nomination de Belém comme ville hôte de la COP30.
Donc c'est peut-être un petit coup d'accélérateur quand même.
C'est quand même un petit coup d'accélérateur, surtout que les élus locaux soutiennent que cette autoroute va être nécessaire à la tenue du sommet. Ça aurait même permis le choix de Belém pour accueillir cette COP30. Bon, la présidence de la COP30, qui est évidemment au cœur de la polémique, assure que c'est pas du tout un projet porté par l'État fédéral et que ça ne figure pas dans les 33 projets d'infrastructures qui sont en ce moment en train d'être menés à Belém. Ça construit de partout. Il faut dire que la ville, donc qui reste hôte, il y a eu un moment des doutes sur l'accueil de la COP30 par la ville de Belém. Donc ce sera bien là-bas, mais il y a une vraie question autour de la logistique, puisqu'il y a 40 000 visiteurs, 40 à 50 000 visiteurs attendus, et qu'il y a très peu de lits, donc on construit
voilà,
à tout va.
D'ailleurs, j'en profite, je lance un appel. Il va y avoir une délégation RFI à Belém à la fin de l'année. Si vous avez un petit logement pour nous, n'hésitez pas à nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr. Simon Rosé.
Je lisais sur vos réseaux sociaux, Anne-Cécile, votre bio. Anne-Cécile Bras, journaliste à RFI, productrice de C'est pas du vent, l'émission sur l'actualité internationale environnementale, née à 327 ppm. C'est quoi ppm ?
Alors, ce sont les parties par million, c'est-à-dire c'est la quantité de carbone qu'il y avait dans l'atmosphère au moment où je suis née.
Et qui a
c'est-à-dire,
bien grimpé depuis.
Voilà, en 1972, j'avoue, je donne ma date de naissance, il n'y a aucun problème avec ça.
Et ça a bien grimpé depuis, on le sait, grâce à un observatoire, l'observatoire de Mauna Loa, qui est situé à Hawaï, qui appartient à la NOAA, l'agence américaine pour l'étude de l'atmosphère et de l'océan. C'est l'observatoire avec la plus longue série temporelle sur l'étude de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est depuis 1958 qu'il le recense de façon journalière. Il va fermer, annonce de Donald Trump et du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale d'Elon Musk. Il trouvait que le loyer que payait la NOAA pour avoir accès au bâtiment était trop cher. Donc c'est évidemment une paille à l'échelle du budget fédéral américain.
C'est plus symbolique.
C'est un projet politique, encore une fois, qu'on voit avec toutes les coupes franches opérées dans le milieu académique américain. On en a déjà parlé à ce micro sur les sujets de recherche et tout ça. Une illustration de plus avec une vraie conséquence mondiale, puisque l'observatoire de Mauna Loa fait référence et est utilisé par tous les scientifiques du monde entier en raison justement de la robustesse de ces données. Eh bien, ça va finir dans les semaines, mois qui viennent.
Et oui, voilà, drame supplémentaire. Bonjour Nina Karel.
Здравствуйте, Anne-Cécile.
Qu'est-ce qui vous a surpris ?
Le Monde a publié l'appel des scientifiques pour accueillir les chercheurs américains en Europe. Face à la censure qui touche notamment les sciences sociales et les études climatiques, un collectif scientifique européen demande la solidarité. Les scientifiques affirment notre devoir en Europe est de réagir collectivement et de proposer des solutions. Et ils proposent que l'Union européenne débloque 750 millions d'euros pour accueillir 5000 scientifiques américains, soit 3 à 4 chercheurs par université ou institut de recherche européen. Cette censure aux États-Unis, avec interdiction de certains sujets d'études et licenciements massifs, a des conséquences mondiales car de nombreux projets internationaux impliquent des chercheurs américains. Par exemple, sans leur donner, même nos prévisions météo européennes pourraient devenir moins fiables.
Voilà, et de nombreux CV, c'est vrai, affluent dans les instituts de recherche européens. Juliette, quel est votre étonnement ?
Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en France, les pins maritimes recouvrent plus de 6% des surfaces boisées. Et
non, nous ne le savions pas.
Dans les Landes. Et il est principalement exploité pour son bois. Ce type d'arbre fait en fait face à des problèmes de reproduction depuis une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'on est passé d'une cinquantaine de graines contre trois fois plus lors du début du XXIe siècle. Et bien, cette semaine, j'ai appris que les graines de pins maritimes garder la mémoire du climat, et plus précisément la mémoire des températures qu'ils ont connues à l'état d'embryon. Et cette mémoire, elle est gardée donc, pendant au moins 2 ans, donc, selon des scientifiques de l'INRAE, lors de la croissance des jeunes arbres. Les chercheurs parlent de modifications épigénétiques dues à l'environnement et qui influencent donc la croissance et la réponse au stress climatique des arbres. Cette étude, en fait, elle ouvre la possibilité de conditionner très précocement les arbres à des variations de température ou à d'autres facteurs environnementaux pour s'adapter justement à un environnement changeant pendant toute la vie.
Oui, c'est donc une bonne nouvelle. Allez, rentrons maintenant un peu plus dans le vif du sujet.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Conception Alvarez, n'en déplaise à Donald Trump, nous devons adapter nos activités aux conséquences du changement climatique et vous en parler sur Novetic. Le ski, par exemple, est menacé, alors ce n'est pas indispensable, me direz-vous. Mais il y a quand même de forts enjeux économiques. Par exemple, la France se classe au 2e rang mondial du tourisme hivernal, juste derrière les États-Unis. Ces 250 stations de ski accueillent chaque année 10 millions de touristes. Ce n'est quand même pas rien, dont un quart d'étrangers et 120 000 emplois dépendent de l'ouverture ou de la fermeture des stations. Et Conception, vous vous êtes rendue dans une station de ski, justement, qui se prépare à la fin.
À la fin, exactement. Ça fait 10 ans déjà que Métabier, donc c'est une station de moyenne montagne qui est située donc près de la frontière suisse dans le massif jurassien, dans le Doubs. Ça fait 10 ans qu'ils savent que la fin du ski va arriver. Ils l'ont acté pour 2030-2035. Et donc, à l'époque, c'est un véritable choc pour les habitants et les commerçants. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut faire face à la réalité. Et quand je suis arrivée sur place, moi, je cherchais partout la neige et il n'y avait pas du tout de neige. En fait, il y avait simplement deux bandes blanches au milieu de paysages verdoyants et de forêts d'épicéas. Et donc, ces deux bandes blanches étaient alimentées avec des canons à neige. Sinon, la station ne pourrait tout simplement pas ouvrir chaque hiver. Et donc, depuis 2015, le syndicat mixte du Mont d'Or qui gère les remontées mécaniques réfléchit à cette transition. À l'époque, il prend une décision radicale. Il faut changer le matériel qui est vieillissant. Les remontées sont vieillissantes. Il refuse d'investir dans deux nouveaux télésièges, ce qu'on fait à chaque fois qu'on veut remplacer le matériel.
Oui, parce que ça ne sera pas rentable à terme.
Non, ça ne sera pas rentable parce qu'on n'aura pas assez de neige. Et donc, le syndicat décide de ne pas investir dans le ski. Il n'y aura plus d'argent pour développer le ski dans la station. On continue tant qu'on peut à le faire avec les canons à neige. La station est équipée d'une centaine de canons à neige. Mais le but, ce n'est pas de remettre de l'argent dedans. Et donc, en 2015, on commence à expliquer à tout le monde qu'il va falloir regarder ailleurs. Le leitmotiv, c'est de dire que ce n'est plus la station qui fait le territoire. C'est le territoire qui doit faire la station. À l'époque, la station rapportait 90% du PIB du tourisme dans le territoire. Donc, il faut inverser les choses. Et petit à petit, ce qu'on aperçoit quand on est sur place, c'est que finalement, évidemment, tout le monde est opposé, les commerçants sont contre, ils veulent pas parler de la fin du ski. Et en même temps, ils sont déjà en train de préparer les vélos pour le printemps, l'été qui arrive. La luge d'été a laissé place à une luge sur rail qui est ouverte toute l'année, que j'ai testée, qui était très très sympa. Le site d'Acrobranche à côté ne fait plus que de l'Acrobranche l'été, mais fait des escape games, des labyrinthes toute l'année.
Vous avez testé aussi ?
Non, ça j'ai pas. Non. Quand même, j'ai travaillé. Bref, en tout cas, on voit qu'il y a tout un écosystème qui se met en place. L'espace nordique jurassien qui s'occupait des activités nordiques, donc le ski de fond, le biathlon, etc., la raquette, est aussi en train de fédérer les acteurs sur le hors-neige. Par exemple, elle me disait une astuce assez... assez basique. Elle me disait avant, il nous fallait 5 mètres de large pour faire du ski de fond. Maintenant, quand on a 3 mètres, on est content. Voilà, on se satisfait, on s'adapte. Et elle me disait, les gens sont en train de s'adapter. Ils sont conscients du changement climatique et ils sont OK. Et pour le biathlon, en fait, on met des skis sur roulettes et ça roule, ça marche en fait.
Ouais, ce que j'allais dire, vous pouvez passer du ski de fond au patin à roulettes. Et je rappelle que la France va accueillir dans ce contexte les Jeux Olympiques d'hiver, essentiellement basés sur le ski en 2030. Simon Rosé.
Encore mieux, l'Arabie Saoudite va accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver en 2030 également, avec du coup des pistes de ski en Arabie Saoudite. Du ski indoor, ça va être... Ça va être royal.
Voilà, et ce n'est pas de la science-fiction. Dans un instant, nous vous emmènerons aussi en montagne, mais en Équateur, cette fois où les glaciers, comme dans l'ensemble du monde, fondent. Mais d'abord, place à la musique avec cette reprise des Beastie Boys. Voici Intergalactique par Robin Allen Anderson. Intergalactic, planetary, intergalactic, planetary, intergalactic.
Intergalactic, planetary, planetary, intergalactic. Outside team, still intergalactic, intergalactic, planetary, planetary, intergalactic, intergalactic, planetary.
C'était Robin Allen Anderson et sa reprise du titre intergalactique des Beastie Boys. Et voici la chronique hip-hop pour Petites Ondes Participatives. Hip-hop, c'est un réseau de vidéastes amateurs qui recueillent des témoignages pour humaniser le débat. Et c'est une chronique de Caroline Filliette.
Aujourd'hui, direction l'Équateur et plus précisément dans la province de Tungurahua, située dans la cordillère andine de l'Équateur, où nous partons à la rencontre de l'alpiniste Rémé Romer. Ce dernier déplore la fonte des glaciers de cette région et les conséquences dramatiques qui en découlent. Ce film hip-hop intitulé « Mort d'un glacier au Cariwerazo » a été réalisé par Karina Alexandra López-Ruano et le film a reçu le Grand Prix Hip-Hop 2024. Je vous propose d'en écouter un extrait. Nous retrouverons ensuite le chercheur de l'IRD, Thomas Condon, qui nous apportera son éclairage.
Mon nom est Jaime Romero. Je réside dans la paroisse de San Juan, à Chimborazo. Ma première visite au Cariwerazo remonte à 1998. C'est là que j'ai ressenti le Cariwerazo. Cari signifie mâle, homme, razu, la neige, waira, le vent. Ce vent froid et puissant qu'on ressent encore aujourd'hui. C'est la zone qui collecte toute la neige et l'eau alimentant les villages de Riobamba et d'Ambato. La montagne et l'eau sont les ressources principales pour l'irrigation, la consommation humaine et les animaux. Cependant, en période de sécheresse, en juillet et août, les débits des canaux diminuent fortement. Avant la pandémie, vers 2018-2019, un point d'eau est apparu, puis la lagune s'est formée. Le glacier a beaucoup diminué. Il y a deux causes à cela. La première cause sont les éruptions du Tungurahua. La cendre est tombée sur le Cariwerazo et a accéléré la fonte du glacier. L'autre cause est bien sûr le réchauffement climatique. Les fortes radiations de cette année ont accéléré la fonte du glacier. Nous avons creusé un peu sous la moraine, mais il n'y a rien, juste du sable. Et la lagune s'est maintenant agrandie. C'est vraiment désolant que le glacier du Cariwerazo soit parti.
Bonjour Thomas Condon.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous travaillez actuellement à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble. Sur quoi portent vos travaux de recherche exactement ?
Alors moi, je suis hydroglaciologue à l'IRD, comme vous l'avez dit, et j'étudie le cycle de l'eau en zone de montagne. Donc dans ces zones, je regarde particulièrement la cryosphère, donc c'est-à-dire la neige et la glace, et notamment le rôle des glaciers dans l'écoulement dans les rivières.
Alors qu'avez-vous ressenti en visionnant ce film qui a reçu le Grand Prix Hip-Hop 2024 ?
On voit bien, je trouve dans la vidéo, de manière très directe, comment se modifie le paysage, comment le glacier disparaît, comment le lac apparaît ou la lagune apparaît, aussi comment ça touche un petit peu tout le monde. J'ai trouvé aussi que Jaime, il voit bien deux phénomènes hein, qui montrent qu'il y a un retrait des glaciers. Tout d'abord, le réchauffement climatique, mais aussi une accélération à cause des cendres des volcaniques qui tombent sur le glacier. Et on voit aussi, je trouve, un point de bascule lorsque le glacier disparaît dans cet environnement.
Alors, des études récentes hein, révèlent qu'entre 1985 et 2023, l'Équateur a perdu 35,4% de ses glaciers en termes de volume de glace. Dans le cas du Cariwerazo, les conséquences pour les habitants sont dramatiques. Quelles sont les difficultés auxquelles ils doivent faire face ?
Alors oui, c'est vrai que ce retrait, il est vraiment important hein, pour le Cari, comme vous le dites, mais c'est aussi visible hein, sur l'ensemble de la cordillère des Andes. Hein. Alors dans le cas du Cari, lui, il a une altitude maximum à 5000 mètres. Ça peut paraître assez haut, hein, c'est plus haut que le Mont Blanc, par exemple, mais comme on est au niveau de la zone équatoriale, à cette altitude, il n'y a pas trop de chutes de neige, il y en aura de moins en moins, et le Cari, finalement, va perdre du volume. Alors, lorsque ce glacier fond, hein, il va amener de l'eau dans les rivières situées à l'aval, il va approvisionner parfois des zones humides. Et donc, on peut dire que le glacier a une relation forte avec les zones aval et avec les écosystèmes, et aussi avec les usages de l'eau faits par l'homme.
Merci beaucoup, Thomas, pour votre éclairage.
Merci beaucoup à vous.
Merci Caroline, merci à Gaëlle Flaugère qui anime la communauté hip-hop avec Max Ball de RFI Planète Radio et les chercheurs de l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement. Et je vous signale que vendredi 21 mars, ce sera la journée mondiale des glaciers, la première du genre. Dans C'est pas du vent, nous vous expliquerons tout sur ces étendues gelées et plus particulièrement pourquoi leur disparition nous concerne tous. RFI émet en 17 langues et dans chaque langue, il y a un référent environnement. Nous leur donnons la parole dans le club de C'est pas du vent.
RFI.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde.
Es la migración más importante de insectos.
Barca mărsa ce ca sunt ceva.
C'est pas du vent.
Ande ne tanki fami вонде амдари ва валата де горе леди дис.
Добрый день, вы слушаете подкасты международного французского радио RFI.
Nina Carrel de la rédaction russe de RFI. Alors que le réarmement de l'Europe est devenu une priorité avec la guerre en Ukraine et les revirements stratégiques du président américain Trump, la question de l'écologie semble parfois être mise de côté. Mais peut-on vraiment, Nina, séparer défense et climat dans un monde de plus en plus confronté aux crises environnementales ?
En fait, les mots armée et écologie peuvent sembler antinomiques, les actions militaires étant souvent liées à la destruction. Pourtant, c'est en 2022 que la France a adopté sa stratégie climat et défense, devenant le deuxième pays au monde, après les États-Unis, à franchir ce pas. Le ministère des Armées souligne qu'elle s'appuie sur les scénarios climatiques élaborés par le GIEC. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine, il redéfinit déjà les missions militaires. Les catastrophes naturelles se multiplient et s'intensifient. Dernier exemple frappant, le cyclone Chido qui a ravagé Mayotte en décembre 2024. Les vents de plus de 200 km/h et les pluies torrentielles ont détruit la nature, mais aussi les routes, les maisons, les infrastructures dans la quasi-totalité du département d'outre-mer. Face à l'ampleur des dégâts, les forces armées ont été déployées en urgence pour porter secours aux populations et rétablir les accès. Mais le dérèglement climatique exacerbe également les tensions géopolitiques existantes et peut devenir un véritable générateur de conflits. Dans le bassin du Nil, le partage de l'eau cristallise la tension entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. En Arctique, la fonte des glaces aiguise les rivalités pour le contrôle des ressources minières et énergétiques.
Alors dans ce contexte, Nina, comment les forces armées s'adaptent-elles concrètement à ce nouveau défi ?
Alors j'ai posé cette question au commissaire général Frédéric Thuzet-Andrès, expert de l'armée de terre.
Vraiment le plus important est d'anticiper le moment où on ne va plus pouvoir utiliser d'énergie fossile. Les armées doivent se projeter, transporter des hommes, du matériel, de l'armement, des munitions, des stocks divers et variés. Et donc pour ça, il faut qu'elles puissent disposer d'un carburant fiable. Aujourd'hui, ce sont des carburants qui sont d'origine fossile et donc les armées sont particulièrement attentives à tout ce qui peut se faire en matière de transition énergétique en particulier. Ensuite, concernant les destructions que le combat génère sur l'environnement, évidemment que la guerre, ça détruit et ça détruit des espaces naturels. Néanmoins, d'une part, les armées françaises évoluent dans le cadre du droit international humanitaire qui protège l'environnement en ce sens qu'il l'interdit de le dégrader volontairement. Il n'est dégradé que si on est obligé de frapper un adversaire. Et d'autre part, il est évident qu'en matière d'écologie et de maîtrise des ressources, moins une armée consomme de ressources, que ce soit des munitions, de l'énergie, de l'alimentation, mieux elle se porte. Par conséquent, les armées ont dans leur ADN d'être économes, mais pour autant, jamais au détriment de leur mission.
Une approche réaliste donc, mais est-ce que le changement climatique a déjà des impacts sur les terrains d'opération, Nina ?
Oui, Anne-Cécile, avec l'air plus chaud, les hélicoptères et avions peinent à décoller, la chaleur diminuant la densité de l'air et donc la portance. Dans les océans, les températures élevées perturbent la propagation des ondes sonores, rendant les radars sous-marins moins efficaces.
Quant aux destructions elles-mêmes, si elles sont intentionnelles, hein, comme le rappelait le général à l'instant, elles sont considérées comme étant contraires au droit humanitaire international.
C'est même considéré comme des crimes de guerre. Nous voyons les conséquences dramatiques des conflits modernes en Ukraine. La rupture du barrage de Kakhovka en juin 2023 a inondé 620 km² de terre. L'Europe s'inquiète également des tirs et des coupures d'électricité à la centrale nucléaire de Zaporijjia. 3 ans après l'invasion russe, au moins 900 zones protégées ont été touchées par les feux et les destructions, soit plus de 30% des espaces protégés du
Merci Nina. Simon, vous vouliez réagir ?
Justement, sur l'impact climatique d'un conflit armé tel qu'on le voit avec la guerre menée par la Russie en Ukraine, il y a eu un travail qui a été fait à l'occasion des 3 ans du conflit. Et en gros, les émissions de gaz à effet de serre générées par les combats sont équivalentes aux émissions annuelles d'un pays comme l'Espagne. C'est un sujet de recherche qui est assez neuf parce que, évidemment, c'est compliqué à mesurer les armements, les tirs, les explosions, combien de gaz à effet de serre ça génère, les transports des troupes, le détournement des avions de ligne qui font des détours maintenant pour pas survoler, il y a une zone d'exclusion aérienne au-dessus. Mais ça commence à être fait parce que ce sont des émissions qui sont pas négligeables. Le fruit de ce travail avait été présenté lors de la dernière session du GIEC il y a 3 semaines, si je dis pas de bêtises,
parce qu'on
est sur 150 conflits armés aujourd'hui dans le monde qui commencent à être étudiés. Les scientifiques étaient un peu timides parce qu'il y a cette question éthique, est-ce qu'on va parler d'environnement quand on voit les drames humains, les hôpitaux qui sont frappés? C'est toujours un peu compliqué, même pour nous, journalistes, quand on fait ce sujet.
Oui, on a toujours l'impression d'être un peu à côté. Et pourtant, les conséquences sont importantes.
Il y a des conséquences réelles qui commencent à être prises en compte et étudiées.
Dans un instant, nous vous parlerons musique et écologie. Ce sera la chronique culture de Caroline Filliette. Mais d'abord, je vous propose un petit détour par le Nigeria avec Burna Boy dans C'est pas du vent.
Back to life, back to reality, back to life, back to reality, back to life, back to reality, back to the here and now.
Then no fit touch my energy.
C'était Update du Nigérian Burna Boy, un titre que vous pouvez retrouver, comme beaucoup d'autres, dans la playlist de RFI, disponible sur toutes les plateformes. Et voici l'heure de la chronique culture dans C'est pas du vent.
RFI. Le club de C'est pas du vent sur RFI.
Caroline Filliette, vous allez nous présenter quelques chansons des années 70 qui parlent d'écologie.
Absolument, Anne-Cécile.
Vous avez plongé dans vos archives, en fait.
Ah oui, et je vous propose de rentrer de suite dans le vif du sujet. Est-ce que cette voix vous dit quelque chose ? Simon,
et Marvin Gaye,
bravo, bravo, yeah. Ça groove dans le studio. Et oui, c'est la voix terriblement sensuelle de l'un des plus grands chanteurs de soul music, Marvin Gaye. Alors on connaît tous cette chanson Merci Merci Me, The Ecology, deuxième single de l'album mythique de Marvin Gaye, What's Going On, sorti en 71. Ça ne nous rajeunit pas. Alors moi j'ai découvert très récemment, mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas, que cette chanson parle d'écologie, même si son titre l'indique, j'avais jamais prêté attention aux paroles. Alors cette chanson est un peu à contre-courant du style de Marvin Gaye, dont le répertoire jusqu'alors était plutôt composé de chansons lascives, qui parlent d'amour, de sensualité. Et petite anecdote amusante, Berry Gordy, le patron de son label, la prestigieuse Motown, qui est aussi son beau-frère d'ailleurs, n'était pas convaincu pour un sou par ce morceau en le pensant trop anti-commercial. Eh bien, Berry Gordy s'est complètement planté car ce titre va caracoler en tête des hit-parades et dépasser le million d'exemplaires vendus aux États-Unis.
Oui, cette chanson est devenue véritable hymne.
Et oui, il faut savoir qu'en 71, le développement durable n'existe pas encore. La première conférence des Nations Unies sur l'environnement n'aura lieu que l'année suivante, à Stockholm. Donc ce titre de Marvin Gaye est très novateur pour l'époque et a su rester un chef-d'œuvre intemporel. Alors les thèmes abordés dans cette chanson sont nombreux. Petite traduction express des paroles. Deux points, j'ouvre les guillemets. Le pétrole a saccagé l'océan. Dans nos mers, des poissons sont pleins de mercure. Ah, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient, nous susurre Marvin de sa suave voix. Alors, ce n'est pas la première chanson sur l'écologie, mais c'est celle qui va avoir un vrai impact international.
Alors, est-ce que les musiciens français des années 70, Caroline, parlaient aussi d'écologie dans leurs chansons ?
Alors, au tournant des années 60 et 70, beaucoup d'associations de protection de la nature et de l'environnement apparaissent en France. Et pour la première fois, en 71, est nommé un ministre en charge de la nature et de l'environnement, Robert Poujade. Alors, dans l'Hexagone, certains chanteurs évoquent la pollution, le béton et les dangers de la surconsommation dans leurs chansons. On pense notamment au Petit Jardin de Jacques Dutronc ou La Maison près de la Fontaine de Nino Ferrer. Et même Johnny Hallyday s'y met en publiant, début 70, un album intitulé Vie, V-I-E. C'est un disque de l'après-68, à la fois poétique, contestataire, écologiste. Et outre une chanson sobrement intitulée « Pollution » et écrite par Jacques Lanzmann, Johnny a aussi interprété un titre très étonnant et très peu connu. Ça s'appelle « Poème sur la septième », car oui, il s'agit d'un poème écrit par Philippe Labreau, déclamé par Johnny sur le mouvement lent de la septième symphonie de Beethoven. Alors ce poème, interprété par notre Johnny National, a quelque chose de post-apocalyptique. Il décrit un monde et des paysages qui n'existent plus. On peut penser aux bombes atomiques qui ont ravagé Hiroshima et Nagasaki, ou encore au napalm déversé pendant la guerre du Vietnam. Quoi qu'il en soit, ce titre de Johnny Hallyday est très audacieux et visionnaire pour l'époque.
Qui a couru sur cette plage ? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc ? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune ? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière ? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne. Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade ? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière.
Et oui, Johnny Hallyday, l'écolo, hein, très surprenant en effet. Caroline, merci d'avoir partagé cette chanson, alors que nous n'avons pas le temps de diffuser dans son intégralité, mais vous mettrez le lien sur la page de l'émission.
Ah oui, ça vaut vraiment, vraiment le coup de l'écouter en entier. Et très rapidement, pour conclure cette chronique musique et environnement, on quitte les années 70 et on revient en 2025 avec le nouvel album de Guise. Guise, c'est le chanteur du groupe Trio. Cet album s'appelle Utopia, il sortira le 11 avril. Alors, défenseur de la cause écologique depuis près de 30 ans, Guise a signé certains des textes les plus engagés de Trio sur ce sujet, dont l'hymne de nos campagnes, ou encore Watson, dédié au fondateur de l'association Sea Shepherd. Et avec le single intitulé Bye Bye de ce nouvel album solo, Guise, eh bien... Il imagine que la planète Terre, lassée de ce que lui font endurer les humains, décide de les laisser se débrouiller sans elle.
J'ai vu le monde entier, juste en fermant les yeux. J'ai pu le visiter, voler sous un ciel bleu. J'ai vu la Terre tourner autour du soleil. J'avais les yeux fermés et je voyais le ciel. Bye bye les humains. De terrain avec votre maladresse. Bye bye les humains. Bye bye, je vous laisse. Moi je serai là demain. Alors bye bye.
Voilà, n'en déplaise à Guise, nous sommes encore là. Et Simon Rosé, oui, vous aviez envie de réagir.
Caroline, vous parliez donc de la chanson en hommage à Paul Watson de Guise. Moi, je vous relance celle de Gojira et Meshuga, groupe de métal un peu bourrin, Of Blood and Salt, qui dénonce le massacre des globicéphales aux îles Féroé. Gojira, c'est un groupe de métal français connu parce qu'ils ont joué aux Jeux Olympiques à la cérémonie d'ouverture. Vachement bien à voir. Et connu également pour son engagement en faveur de la cause environnementale. Ils ont fait un album Amazonia qui est à écouter, c'est une bombe.
Voilà, okay. N'hésitez pas à nous envoyer
la prochaine
chronique et n'hésitez pas à nous envoyer François Porcheron fait non du doigt, hein, c'est lui qui décide, je rappelle les musiques qui passent dans cette émission, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos petites pépites musicales en lien avec l'écologie, ça nous intéresse toujours.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Juliette Pietraszewski du service environnement et climat de RFI, vous intéressez aujourd'hui à un mouvement qui a fait parler de lui il y a quelques jours en France, non à la fast fashion. Alors c'est un collectif d'associations qui a attiré l'attention sur le désastre écologique que représente la surproduction des vêtements et par conséquent des déchets textiles qui inondent la planète, surtout les pays du Sud, notamment certains pays africains. Et en France, une proposition de loi a été adoptée il y a un an déjà à l'Assemblée nationale pour lutter contre la mode jetable, mais elle n'est toujours pas passée en séance plénière au Sénat.
Oui, et pour protester contre ce que les associations appellent l'inertie du Sénat sur le sujet, 10 tonnes de déchets textiles ont été déversées vendredi dernier devant le Palais du Luxembourg à Paris, le siège du Sénat. Une action suivie aussi dans d'autres villes de France. Petite précision, Anne-Cécile, la loi est en ce moment même en train d'être examinée par la Commission Aménagement du Territoire et Développement Durable du Sénat. Mais attention, son passage en séance plénière n'est effectivement pas assuré pour autant. Ça devrait être décidé ce soir vers 18h. Et pour les défenseurs de l'environnement, cette proposition de loi, elle est essentielle, même pionnière, parce qu'elle prend à bras le corps le problème de la surproduction de vêtements à la racine. Elle prend la mesure de ce désastre écologique en voulant par exemple interdire la publicité des marques de fast fashion, en pénalisant aussi les marques si elles renouvellent trop fréquemment leur production. Des ONG environnementales appellent donc à l'adoption de cette loi qui ne doit pas être vidée de sa substance, explique-t-elle.
Alors nous verrons si cette proposition de loi française aboutit, mais plus globalement, Juliette, la fast fashion, c'est un problème international.
Oui, d'ailleurs, les défenseurs de l'environnement insistent depuis des années sur la nécessité d'une réglementation internationale stricte sur le sujet, car c'est bien dans les pays du Sud que les vêtements achetés par les pays du Nord terminent leur route ou presque. Nous allons refaire le circuit de ces vêtements issus de la fast fashion ensemble. Alors à l'origine, ils sont majoritairement fabriqués dans certains pays d'Asie, où des ONG dénoncent également des violations des droits humains et une irresponsabilité des multinationales. Une Une fois achetés par les pays du Nord, les vêtements de la fast fashion, qui ne sont pas non plus de très grande qualité, ne sont pas ou très peu portés par leurs propriétaires, qui décident donc de les déposer dans divers points de collecte. En France, par exemple, lorsque nous déposons nos vêtements usagés dans un conteneur dédié à cet effet, nous avons tendance à penser qu'ils seront vendus pour une bonne cause, dans une friperie caritative, ou qu'ils seront recyclés. Mais ça concerne seulement une petite quantité d'entre eux. Si certains sont recyclés en chiffon, par exemple, la grande majorité est exportée principalement en Afrique de l'Est, de l'Ouest et en Europe de l'Est. Et c'est l'ONG Greenpeace qui avait notamment publié une enquête sur le sujet en 2022.
Et ces vêtements polluent donc l'environnement des pays du Sud.
Oui, et nos auditeurs ont sans doute déjà vu ces images choquantes de montagnes de déchets textiles polluant l'environnement dans divers pays d'Afrique notamment. Au Kenya par exemple, les habits arrivent par kilo et finissent sur les étals des marchés dans le meilleur des cas, mais également dans des décharges. Au Ghana, près de 50% des vêtements trop abîmés pour être vendus échouent aussi dans des décharges sauvages, sur les plages ou dans l'océan. Chaque semaine, environ 15 millions de vêtements sont reçus dans le pays, mais près de la moitié sont invendables. Le marché international est aussi inondé par la fripe donc des pays occidentaux, mais aussi de la Chine, grande productrice de textiles, si bien que nous observons des volontés de monopoliser les importations de déchets textiles dans certains pays. Au Niger, par exemple, Pékin a fait interdire l'importation de friperies européennes. Elle seule peut désormais envoyer des vêtements. Et plus globalement, ce constat général, c'est le symbole d'un système vicieux de la mode jetable aux attitudes néocoloniales des pays développés, selon Pierre Condamine, des Amis de la Terre. Il est chargé de campagne sur production.
Il y a une véritable guerre commerciale qui se joue à ce niveau-là. En fait, ces images qu'on voit de vêtements, de déchets textiles, elles sont que la représentation de la surproduction de vêtements. On estime qu'on produit entre 100 et 150 milliards de vêtements par an. On aurait assez de vêtements pour se vêtir jusqu'en 2100. Donc on sait qu'on produit tellement de vêtements qu'on ne pourra jamais les traiter, les réutiliser, les recycler. Il faut avant tout s'attaquer à la source, c'est-à-dire réduire la surproduction.
Vous avez bien entendu, 150 milliards de vêtements sont produits chaque année. Ils représentent jusqu'à 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Les défenseurs de l'environnement appellent donc à mettre en place cette loi anti-fast fashion en France, mais aussi à mettre en place une réglementation internationale stricte par le biais d'un traité mondial.
Voilà, nous avons fait plusieurs émissions dans C'est pas du vent sur ce sujet. En France, il y a en moyenne un tiers des vêtements qui dorment dans nos placards, hein, qui ne sont jamais portés. Réfléchissez bien quand même avant d'acheter et pensez aux vêtements de seconde main que vous pouvez désormais trouver partout. Simon Rosé.
Moi, je vous trouve super sévère. C'est un merveilleux débouché pour toute l'industrie des hydrocarbures et du pétrole, puisqu'il ne faut pas oublier que les vêtements, c'est principalement du plastique. Et ils cherchent les pétroliers des débouchés en ce moment.
Je vais aller fouiller votre garde-robe. Simon Rosé, je vous préviens.
Du lin et du coton.
Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. 100%. Alors, l'exploitation minière, sinon, parce que le plastique se retrouve aussi dans les fonds marins. Ouais. Et ces fonds marins, on en discute beaucoup en ce moment en Jamaïque, puisque les négociations sur cette exploitation minière des fonds marins est au cœur d'un intense débat international.
C'est le conseil de l'AIFM, donc l'autorité internationale des fonds marins, qui se réunit pour 2 semaines à partir, ils ont commencé lundi. Ce lundi, c'est pas la plus connue des instances onusiennes, mais pourtant, c'est elle qui va avoir en charge tout ce qui est en charge des zones internationales. Donc c'est quand même une grosse partie de la planète. Et depuis plusieurs années, il y a ce débat. Dans les grands fonds, on trouve ce qu'on appelle des nodules polymétalliques. C'est des espèces de patates de métaux, cobalt, manganèse, nickel. Très intéressant, nous dit-on, pour la transition énergétique, pour faire des batteries, pour faire des rotors d'éoliennes, pour faire tout un tas de choses super chouettes. On en a sur Terre aussi, hein, de ce genre de ressources. Et pendant très longtemps, il était inenvisageable d'aller les chercher, puisqu'on parle de nodules qui se trouve à plusieurs milliers de mètres de fond.
Ce n'était pas rentable.
Donc, techniquement même, on ne savait pas trop faire. Et ça coûtait très cher. Ça devient envisageable maintenant. Et pour la première fois, il y a une compagnie qui, en juin, The Metals Company, entreprise canadienne, va demander le tout premier permis d'exploitation pour aller chercher ces nodules polymétalliques. On parle de la zone de Clarion-Clipperton qui se trouve dans le Pacifique. Et cette AIFM arrive là et doit statuer. On va recevoir cette demande en juin. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Là-dessus, il y a plusieurs pays qui sont menés, notamment par des petits pays insulaires du Pacifique, qui vont être les premiers concernés par cette exploitation, qui sont vent debout contre ces pratiques, puisque c'est très mal documenté. Les fonds marins sont une des rares zones encore préservées de l'activité humaine, même si, comme vous le disiez, on trouve des déchets plastiques, notamment. Mais pas que. mais c'est le moyen d'empêcher une industrie destructrice de commencer ses activités, de le faire en amont, plutôt que d'aller réparer les dégâts après. Donc il y a une trentaine de pays qui se prononcent pour un moratoire, voire une interdiction de cette pratique. Et à rebours, il y a des pays qui, eux, veulent y aller au plus vite. Et c'est la IFM qui doit trancher ça. Dans un contexte... Oui.
Je me permets une petite question, parce que pendant longtemps, les pays africains étaient assez absents de ce débat. Est-ce que pour ces négociations-là, on les entend un petit peu plus ?
On commence, parce que dans les pays qui sont pour y aller vite et aller chercher ce qui se trouve
dans
ces grands fonds, il y a la Chine, notamment la Chine qui a fait pression assez longtemps sur le groupe Afrique. Dans son ensemble, donc le groupe Afrique est plutôt détenant de l'exploitation marine, minière des fonds marins. Ça a évolué justement à l'occasion de ce conseil. Il y a eu des premières prises de parole de pays comme la Sierra Leone, le Zimbabwe, la Tanzanie, qui commencent à s'écarter gentiment mais fermement de cette position de groupe. Donc à voir comment les choses vont évoluer dans les semaines à venir. Parce que la chose qui se déroule en parallèle, c'est que aller chercher ces métaux dans les fonds marins, certes, mais sous quelles règles ? Il faut un code minier. Code minier qui n'existe pas aujourd'hui. Donc si les États donnent l'accord à The Metals Company pour y aller en juin, elle pourra faire strictement ce qu'elle veut dans les conditions qu'elle veut. Il n'y a pas de code minier international. Et ce code minier est également en négociation. C'est très compliqué entre les États qui veulent y aller et les États qui ne veulent pas y aller. Puisque c'est compliqué parce qu'on parle de l'ONU, et c'est toujours compliqué, tout ça est géré par une océanographe brésilienne, Laetitia Carvalho, qui a été élue présidente, secrétaire générale de l'AIFM l'an dernier, qui donne un peu d'espoir aux gens qui sont contre cette exploitation minière des fonds marins, puisque c'est une scientifique qui a annoncé qu'elle tiendrait son mandat sous le régime de la science. Et justement, comme je disais, on connaît très mal l'impact de cette industrie
donc
sur les fonds marins.
Elle devrait plutôt se positionner contre.
Après, elle est,
mais elle n'est que présidente.
Elle n'est que présidente, secrétaire générale. Mais c'est une grande différence avec l'ancien Michael Lodge, qui était un avocat britannique épinglé, je ne sais pas combien de fois, pour sa proximité avec les grands caciques de l'industrie minière, notamment canadien, dans la presse anglo-saxonne, a fait un travail remarquable sur ce sujet. Donc c'est un peu tout ça qui va se télescoper. Dans
quand
le
est-ce qu'on a la réponse sur oui ou non exploitation des fonds marins ?
Alors,
les ça pays fait longtemps qu'on
d'ici, ouais, ça fait, bah, c'est notamment l'écriture de ce code minier, ça prend très très longtemps parce que c'est complexe. Sur la position que les États adopteront en juin, quand The Metals Company va faire sa demande d'exploitation, normalement, ce sera à la fin de ce conseil, donc vendredi dans 10 jours. Là, on devrait être fixé. Sur la question de est-ce qu'on fait un moratoire ou pas, ce sera lors de l'Assemblée générale de l'AIFM qui se tiendra en juillet et qui interviendra juste après la conférence des Nations Unies sur les océans qui, elle, aura lieu en juin. Un petit mot très rapide pour
très
dire
rapide.
Pourquoi. Il y a des pays qui veulent y aller à fond, et notamment Nauru, un état insulaire du Pacifique. Pourquoi ? Parce que c'est très rémunérateur.
Oui, on a et une Nauru, petite idée du fait que ça va rapporter beaucoup.
Voilà, et Nauru est pourtant un pays qui est menacé par le changement climatique et ses conséquences, mais a besoin de liquidité pour s'adapter, liquidité que la communauté internationale ne lui donne pas, donc va chercher l'argent où il est. Voilà,
voilà. Merci Simon Rosé pour ce petit topo sur cette exploitation minière des fonds marins qui nous inquiète, vous l'aurez compris. Merci Conception Alvarez.
Merci
d'être venue dans C'est pas du vent. Les auditeurs peuvent vous lire sur le site de Novetic, novetic.fr. Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation de cette émission, à Pauline Baissette, stagiaire à RFI, qui a suivi attentivement nos échanges. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et ne bougez pas, dans une minute, c'est le journal sur RFI.